Section 6, déviation sexuelle. Chapitre 14, excès dans le mariage. La continence dans le mariage n'est pas recommandée, mon cher frère, je désire vous soumettre plusieurs points relatifs aux dangers menaçant l'œuvre actuellement. Le travail d'Anna Phillips ne porte pas le sceau du ciel. Je sais ce dont je parle. Nous avons connu de semblables manifestations tout au début de notre mouvement. Il y eut beaucoup de ces révélations, et nous avons eu la tâche très désagréable d'affronter cette résistance et de ne pas en tenir compte. Certains aspects de ces révélations se sont réalisés, et plusieurs en vinrent à les accepter comme authentiques. De jeunes célibataires étaient chargés d'un message à l'intention des hommes mariés, et devaient leur parler en face, de manière peu délicate, des abus dans leurs relations conjugales. Le fond de ces messages portait sur la pureté, et pendant quelque temps, tout parut relever d'un très haut niveau de sainteté. Mais la véritable nature de ce sujet me fut révélée, ainsi que les conséquences de cet enseignement. Celles qui s'étaient engagées dans cette action n'avaient rien de personne superficielle et immorale, mais avaient été les ouvriers les plus consacrés. Satan profita de cet état de choses pour déshonorer la cause de Dieu. Ceux qui se croyaient capables de soutenir cette épreuve, sans enflammer les tendances charnelles, furent vaincus et plusieurs furent contraints de se marier. Ceux qui estiment devoir aller aussi loin dans ce sens me préoccupent. Satan agit sur l'imagination et il en résulte l'impureté au lieu de la pureté. Jésus n'a pas imposé le célibat à quelque catégorie de personnes que ce soit. Il n'est pas venu pour détruire l'institution sacrée du mariage, mais pour l'exalter dans sa sainteté originelle. Il éprouve de la joie à la vue d'une famille dirigée par un amour désintéressé. La dépense d'énergie vitale, beaucoup de parents n'ont pas les connaissances voulues pour aborder la vie conjugale. Ils ne veillent pas à ce que Satan n'ait pas l'avantage sur eux et ne domine leur esprit et leur vie. Ils ne comprennent pas que Dieu leur demande de contrôler tout excès dans leur vie de couple. Bien peu tiennent pour un devoir religieux de maîtriser leur passion. Ils se sont unis à la personne de leur choix, et voient dans le mariage un moyen de justifier leur vile passion. Même des hommes et des femmes faisant profession de piété donnent libre cours à leurs désirs, sans penser que Dieu les tient pour responsables d'une dépense d'énergie vitale qui affaiblit les réserves de leur vie, et énerve leur organisme. Satisfaction immodérée de la sexualité, le mariage sert à couvrir les péchés les plus noirs. Des hommes et des femmes qui font profession de piété dégradent leur propre corps en se laissant aller aux passions corrompues, et se rabaissent au-dessous de la bête. Ils abusent des forces données par Dieu pour les garder dans la sainteté et dans la dignité. On sacrifie la santé et la vie sur l'autel des passions méprisables, et les puissances les plus hautes, les plus nobles, sont assujetties aux tendances animales. Ceux qui pêchent ainsi ne sont pas informés de la gravité de leur conduite. Si tous pouvaient saisir la somme de souffrance qu'ils s'attirent par leur indulgence coupable, ils seraient effrayés. Quelques-uns au moins éviteraient cette conduite pécheresse aux conséquences redoutables. Tant de personnes connaissent une si pitoyable existence que la mort vaudrait mieux pour elles. Et beaucoup meurent prématurément pour avoir sacrifié leur vie à la satisfaction immodérée de passions animales. Cependant, du fait qu'ils sont mariés, ils croient ne commettre aucun péché. Hommes et femmes, vous apprendrez un jour ce qu'est la convoitise et ce qu'il en coûte d'y céder. Une passion aussi dégradante peut exister aussi bien dans le mariage que hors mariage. La dignité de la femme et le respect de soi-même, beaucoup de soi-disant chrétiens que je connais me paraissent dépourvus de retenue morale. Ils relevant bien plus de l'animal que du divin. En fait, ils ont tout de la bête. De tels hommes avilissent la femme qu'ils ont promis de nourrir et d'aimer. Elle est devenue l'instrument destiné à satisfaire leurs tendances basses et sensuelles, et beaucoup de femmes consentent à devenir esclaves de ces passions. Elles ne gardent pas leur corps dans la dignité et le respect de soi-même d'avant le mariage, que cette noble institution aurait dû préserver et développer. Mais cette chaste et digne féminité créée par Dieu est sacrifiée sur l'autel de la passion dégradante pour plaire au mari. L'épouse qui abandonne ses privilèges et accepte la soumission totale, cessera bientôt de respecter son mari. La vie conjugale devient un joug humiliant, car la méfiance, la jalousie et la haine remplacent souvent l'amour qui s'éteint. Méfiance entre époux, aucun homme ne peut véritablement aimer une femme qui se soumet docilement à lui jusqu'à devenir son esclave et satisfaire ses passions dépravées. Cette soumission aveugle la déprécie aux yeux de son mari. Il assiste à sa déchéance, et ne tardera pas à la soupçonner d'en accepter autant d'un autre homme. Il doute de sa fidélité et de sa pureté, se lasse d'elle et se met en quête d'autres femmes, afin de stimuler et d'accroître ses passions démoniaques. On ne se soucie plus de la loi de Dieu. L'épouse en vient aussi à jalouser son mari. Elle le soupçonne d'être prêt à faire la cour à une autre, si l'occasion s'en présente. Elle comprend qu'il n'est plus dirigé par sa conscience ou la crainte de Dieu, car les barrières saintes sont maintenant rompues par la luxure. Tout ce qui, chez lui, porte l'image de Dieu, se trouve asservi aux appétits bas et grossiers. Caractère destructeur des excès sensuels, lorsque la femme abandonne son corps et son esprit au pouvoir de son mari, sacrifiant sa conscience, sa dignité, et même son identité à sa volonté dans une soumission passive, elle manque l'occasion d'exercer cette puissante influence pour le bien qui pourrait élever son mari. Elle pourrait adoucir son naturel dur et exercer une influence sanctifiante capable de l'affiner et de le purifier, l'amenant ainsi à dominer ses passions. Ils seraient mieux disposés spirituellement, et tous deux deviendraient participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Cette influence pourrait servir à élever et ennoblir l'esprit, au-delà des passions sensuelles recherchées par le cœur non régénéré. Quand une femme pense qu'il lui faut s'abaisser au niveau de son mari pour lui plaire, dans un amour basé sur la passion charnelle, et qu'elle doit lui laisser contrôler ses actes, elle déplaît à Dieu. En effet, elle ne parvient pas à exercer une influence sanctifiante sur son mari. Cette soumission totale l'empêche de comprendre son devoir envers lui et envers Dieu. Les excès sexuels détruiront sûrement l'amour de la piété, priveront le cerveau de la substance nécessaire à la nourriture de l'organisme et épuiseront complètement la vitalité. Quelle femme aiderait son mari dans cette œuvre d'autodestruction? Elle s'y refusera si elle est éclairée et si elle l'aime vraiment. Préserver l'esprit et le corps, que les hommes et les femmes animés de la crainte de Dieu s'éveillent à leur devoir. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens souffrent de paralysie nerveuse et cérébrale, suite à leur intempérance en ce domaine. Nombre d'entre eux considérés comme des gens de valeur, qui occupent des postes importants, prient et pleurent, ils ont les os et la moelle rongés. Ils ne sont que des morts vivants et ne franchiront jamais les portes de la cité céleste. Oh ! Si je pouvais faire comprendre à tous qu'ils sont tenus par Dieu de conserver leurs facultés physiques et mentales dans les meilleures conditions possibles afin de servir leur Créateur d'une façon exemplaire. Transmission du vice, la satisfaction des passions charnelles a affaibli leur cerveau et miné leur constitution depuis leur jeunesse. L'abnégation et la tempérance devraient être le mot d'ordre de leur vie conjugale en sorte que les tendances charnelles des enfants ne soient pas renforcées, et qu'ils ne risquent pas de se trouver déficients sur le plan moral et intellectuel. Le vice atteint pratiquement tous les enfants. Quelle en est la cause? De qui tiennent-ils leur tempérament? Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de chacun afin de lui permettre de voir sur quel terrain glissant il se tient. À cause du tableau qui m'a été montré concernant la corruption d'hommes et de femmes qui font profession de piété, j'ai failli perdre toute confiance en l'humanité. J'ai vu que presque tous étaient comme hébétés. Il est pratiquement impossible de réveiller ceux qui devraient l'être, pour leur faire prendre conscience du pouvoir détenu par Satan sur leur esprit. Ils ne mesurent pas le degré de dépravation qui les entoure. L'adversaire les a aveuglés et les a endormis dans une sécurité trompeuse. L'échec des efforts destinés à faire comprendre aux hommes les graves dangers qui menacent leur âme m'a parfois laissé craindre que mes idées sur la corruption du cœur humain ne soient excessives. Cependant, devant certains des faits rapportés montrant la triste déviation morale d'un homme qui osait remplir une fonction sacrée avec un cœur corrompu, et qui profanait les vases du Seigneur de ses mains souillées par le péché, j'ai l'assurance de ne pas avoir exagéré. Abus des privilèges sexuels, que le mari et la femme se révèlent être l'un pour l'autre, dans leur vie de couple, une aide et une bénédiction. Qu'ils réfléchissent à ce qu'il en coûte de céder à l'intempérance et à la sensualité. Semblable indulgence n'accroît en rien l'amour et ne procure ni ennoblissement ni élévation. Ceux qui cèdent aux passions charnelles et assouvissent leurs convoitises imprimeront certainement sur leur progéniture leurs habitudes dégradantes, le poids de leur souillure physique et morale. Pousser à l'excès une chose permise fait d'elle un péché, ceux qui se disent chrétiens devraient considérer les conséquences des privilèges de la vie conjugale. La sanctification doit être à la base de tout acte. Importance vitale d'un bon exemple, notre époque voit se développer avec force les passions charnelles entretenues et satisfaites, et il en résulte des maux indicibles dans la vie conjugale. Au lieu de permettre que l'esprit se développe et exerce son énergie prépondérante, on permet aux tendances animales de dominer les facultés les plus hautes et les plus nobles, jusqu'à leur assujettissement total. Qu'en résulte-t-il? L'organisme fragile des femmes connaît l'épuisement et la maladie. La maternité est compromise. Les hommes dégradent leur propre corps et les femmes deviennent l'esclave de leurs appétits immodérés et bas pour cesser finalement de craindre Dieu. Seule la vérité divine peut rendre un homme sage à salut et le maintenir dans cet état. Si pour obtenir la vie éternelle et être admis en présence de Dieu et des saints anges, nous devons développer un caractère pur et saint, pourquoi les hommes ne se montrent-ils pas plus zélés pour le Maître, et ne font-ils pas preuve d'un amour ardent en faveur des âmes pour lesquelles le Christ est mort? Si l'homme veut jouir de l'immortalité, son esprit doit s'harmoniser avec celui de Dieu. Ainsi le véritable disciple à l'école du Sauveur, non seulement apprendra sans cesse, mais, reflétant constamment la lumière, il dispensera un enseignement loin des erreurs communément répandues dans cette génération perverse et adultère. Un chrétien doit regarder en permanence au modèle, et imiter le saint exemple de Jésus. Ainsi, une bonne disposition d'esprit pénétrera la vie, et le caractère de son entourage. En cherchant Dieu chaque jour dans la prière fervente et humble pour recevoir la lumière et la direction d'en haut, il percevrait de manière sur sa ligne de conduite personnelle. Cela aurait pour effet de réprimer les actes et les projets non sanctifiés, et le Christ deviendrait la règle de vie. La santé mentale est déficiente, il faut se tenir résolument en garde contre les viles passions. En les laissant se déchaîner, on malmène grandement les facultés de perception, et lorsqu'on y cède, le sang, au lieu de circuler dans le corps, est sollicité en quantité excessive vers les organes internes. Cela provoque des maladies. Impossible de jouir d'un esprit sain sans discerner le mal et y porter remède. La satisfaction des désirs affaiblit les facultés morales, Dieu que je sers en mon esprit, dit Paul. Troubler cet esprit en donnant libre cours aux appétits et aux passions charnelles affaiblit les facultés morales et conduit à ne plus distinguer le sacré du profane.